Bienvenue sur Radio Shalom 97.1 FM sur votre émission La Voix du Jazz avec Anouar comme présentateur et Ellie à la régie. Aujourd'hui, je vais vous présenter du coup l'épisode 3 partie 1, donc qui succède à l'épisode 2 logiquement. Après avoir exploré les racines profondes du blues, les rythmes syncopés du ragtime et la spiritualité poignante des Negro Spirituals, il devient évident que ces traditions ont jeté les bases d'un langage musical nouveau. C'est dans cette effervescence culturelle que naît le jazz, et plus particulièrement le jazz hot. Véritable explosion sonore qui incarne l'énergie, la liberté et l'improvisation. Alors, pour mettre en place le contexte, le 2 avril 1917, les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne. Quelques mois plus tard, les troupes américaines débarquent en France pour monter au front au printemps 1918. Sur cette décision, les États-Unis décident de mettre en place un effort de guerre dans les usines, ce qui enclenche une grande vague de déplacement de la population, provenant généralement du sud des États-Unis vers le nord. Ce qui provoque aussi un déplacement de la population afro-américaine. Les ghettos s'agrandissent sans que les personnes du parti républicain s'en aperçoivent. Concentrés dans la construction d'une Amérique plus libérale mais conservatrice et fermée, lors de la prohibition, donc entre 1919 et 1930, l'arrivée du trafic d'alcool, généralement contrôlé par la mafia juive et la mafia sicilienne, ouvre les portes pour les musiciens de la communauté afro-américaine. Notamment avec les cabarets, avec la lutte sur l'anticorruption lancée à Chicago aux alentours de 1928, le déclin du gangstérisme va entraîner la chute du jazz dans les villes très influencées par ce style, comme la ville de New York et Kansas City. Mais un autre mouvement qui était quasiment disparu et porté sur la xénophobie revient en force, le Ku Klux Klan. Provoquant des tensions entre la communauté afro-américaine et la communauté blanche, ceci provoque une succession d'émeutes comme celle de Saint-Louis ou de Houston en 1917 à celle qu'on appelle l'été rouge de 1919 qui toucha plusieurs villes dans tous les pays. Sur le plan politique, les grandes figures de la communauté afro-américaine commencent à prendre une tournure radicale dès 1917 où dans les magazines The Messenger, ils prônent à la résistance contre la conscription. Alarmé par cette prise de position radicale, le Sénat en fait un rapport sur le danger du radicalisme publié en 1919. Une des figures de ce radicalisme, mais aussi du panafricanisme et du nationalisme noir, est Marcus Garvey. Né le 17 août 1897 en Jamaïque, à St. Anne Bay, dans une colonie britannique, il devient typographe et s'engage dans ses mouvements syndicaux, ce qui lui permet de mettre un pas dans l'activisme. C'est alors qu'il tente de mettre en œuvre le projet de retourner en Afrique, mais ça n'a pas abouti, et c'est aussi dû à son arrestation pour fraude en 1923. Mais il reçoit tout de même donc un soutien assez durable, et c'est ce qui lui permettra en fait de créer le premier syndicat noir en 1925, The Brotherhood of Sleeping Car Porters. L'alcool de contrebande invite l'élite intellectuelle à consommer pour essayer de renouer avec l'énergie fondatrice de l'identité américaine dans les cabarets de Harlem. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Au moment où le premier syndicat noir est né en 1925, la revue littéraire The Survey Graphics publie un numéro spécial intitulé « Harlem, Mecca of the New Negro », la Mecque du Nouveau Nègre. En même temps, le terme « Renaissance » désignait une nouvelle génération d'artistes et d'intellectuels noirs qui se rassemblaient à Harlem en faisant de ce lieu une référence culturelle pour la communauté afro-américaine. On peut citer, pour exemple, « Autobiography of an Ex-Colored Man » de Weldon Johnson, écrit en 1912, ou « Fire », un numéro spécial de la revue littéraire radicale qui a été lancé par Langston Hughes en 1926. Dans le domaine de l'industrie musicale, les premiers brevets sur l'invention du disque commençaient à tomber dans le domaine public. Les grandes compagnies comme Columbia et Victor Talking Machine voient leur statut en danger par de petites compagnies comme Genet, Paramount, OK, Vocation ou Black Swan. La démocratisation des prix permet de donner un aperçu sur le potentiel économique de la population afro-américaine, ce qui incite à créer des catalogues spécialement créés pour la communauté noire, comme Colored Catalogs et Race Series. C'est à partir de 1922 que le nombre de studios d'enregistrement se multiplie et les maisons de disques commencent à décentraliser leur équipement. Suite à ça, les Talent Scouts, les chasseurs de talents, rejoignent le sud des États-Unis à la recherche d'artistes locaux. Le disque s'impose au cylindre et les systèmes de lecture sont standardisés. Les enregistrements électriques se généralisent à partir de 1925 avec les amplificateurs à lampes, micros et moteurs électriques. Le moyen de lecture utilisé pour les disques est le tourne-disque. avec une rotation qui se stabilise autour des 78 tours par minute. Ce progrès permet aux enregistrements d'après 1925 de donner un rendu de qualité, contrairement aux enregistrements acoustiques. En 1924, les talent scouts des maisons de disques commencent à faire connaître le blues authentique du Sud. Certains enregistrements se font sur place, mais certains musiciens font le choix de prendre le chemin de Chicago. On peut prendre pour exemple Big Bill Brandy. De son vrai nom, Lee Conley Bradley est un guitariste et chanteur afro-américain né soit en 1893, soit en 1903 selon les sources. Dans les années 1920, il fait le chemin vers Chicago pour trouver des opportunités plus grandes dans la musique. C'est à ce moment-là qu'il commence à se produire localement, mais aussi dans les studios d'enregistrement. 1927 marque le début de ses enregistrements publiés. Son premier, en tout cas l'un de ses premiers, fut chez Paramount, House Rent Stomp de Big Bill Blues.
I've lost my baby, now tell me what I'm going to do. You know I'm so lonesome. Way these blues keep dogging me. Yeah, baby, but that's all right. I will be up someday. When my baby left me, she left me broken down. She said goodbye, Big Bill, I will see you in another town. Now you know I'm lonesome. Way these blues keep dogging me. I said that's all right. Big Bill will be up someday. I've got to walk by myself and sleep by myself. On account of the one I'm loving, she keep on loving someone else. You know I'm lonesome. Way these blues keep dogging me. Yeah, but that's all right. Baby, I will be up someday. If I'd have listened at what my mother said and did what she said, I'd have been home now, sleeping in a great big bed, 'cause I'm lonesome. Way these blues keep dogging me. Yeah, but that's all right. Baby, I will be up someday. The men was put on earth to rule, but women is ruling too. Sometime I wonder what is a poor man gonna do, 'cause I'm lonesome. Where these blues keep dogging me. Yeah, but that's all right. Where these blues is dogging me.
Pour en revenir, les années 1920 voient également enregistrer des solistes de spirituel à mi-chemin entre les traditions lyriques européennes et les traditions beaucoup plus afro-américaines. Et avec ceci, nous avons par exemple Pete Box Soldier de Paul Robertson dans l'album Song of Free Men. Thank you. datant de 1942. Malheureusement, c'est un extrait un petit peu plus récent. Pour autant, nous avons aussi un autre extrait à écouter, provenant de Marianne Anderson, Didn't My Lord Deliver Daniel, provenant de l'album Live de Carnegie Hall, datant du 6 décembre 1938. Et voici donc Didn't My Lord Deliver Daniel, provenant de l'album live de Carnegie Hall, datant du 6 décembre 1938. Pour continuer, si on regarde du côté des talent scouts, le travail de prospection se fait aussi en direction des campagnes blanches, mettant en évidence les influences réciproques entre le blues, le ragtime et la country music. C'est dans cette même période que le blues yodel apparaît, et plus précisément en 1927 avec le chanteur country Jimmy Rogers, l'un des morceaux considérés comme un classique, Blue Yodel numéro 1, T4 Texas.
I'll sing an old Blue Yodel song for you.
Yes, that's it.
All right. T4 Texas, T4 Tennessee. T4 Texas, T4 Tennessee, T4 Delma, that gal that made a wreck out of me. The old lady, old lady, old lady. If you don't want me, woman, you sure don't have to stall. Lord, Lord. If you don't want me, mama, you sure don't have to stall. Cause I can get more women than a passenger train can haul. Oh, lady, oh, lady, lady, lady. I'm gonna buy me a pistol just as long as I'm tall. I'm gonna buy me a pistol just as long as I'm tall. I'm gonna shoot poor Velma just to see her jump and fall.
the water drinks like cherry wine. I'm going where the water drinks like cherry wine. Cause the Georgia water tastes like turpentine. The old lady, old lady, lady. I'm gonna buy me a shotgun with a great long shiny barrel. Sing 'em, boy. I'm gonna buy me a shotgun with a great long shiny barrel. I'm gonna shoot that rounder that stole away my gal. Oh, lady, oh, lady, lady, lady. Brother drank muddy water and sleep in a hollow log. I'd rather drink muddy water and sleep in a hollow log than to be in Atlanta treated like a dirty dog. The old lady, old lady, lady.
Au même moment, à New York, dans les théâtres de Broadway, les revues de George White's Scandals détrônent les Ziegfeld Follies et font connaître George Gershwin, qui prend son autonomie et adopte la comédie musicale Lady Be Good, OK, ou Strike Up the Band, ou Funny Face. Il y a d'autres pionniers de ce genre, avec Irving Berlin et surtout Jerome Kern. Nourris des rythmes de musique afro-américaine, les œuvres permettent aux jazzmen de fournir une panoplie de thèmes. Si New York avec Broadway s'affirme comme la capitale de la comédie musicale et des standards repris par les jazzmen, Chicago connaît parallèlement une évolution sociale et culturelle décisive. Dans les années 1910, l'installation massive d'immigrants italiens et juifs d'Europe centrale mit fin au règne irlandais sur le quartier du South Side, entre la Chicago River et le lac Michigan, transformant la ville en un autre foyer majeur du jazz. La communauté afro-américaine provenant du Sud s'y intègre aussi en s'installant et en développant dans les ghettos des nightclubs aux alentours de la 35e rue et de State Street. Ces musiciens provenant pour la plupart de la Nouvelle-Orléans commençaient à se faire connaître et profitent à Chicago la réputation de la capitale du jazz jusqu'à que le jazz de New York prend son essor à la fin des années 1920. Mais une autre communauté profite de la popularisation du jazz de Chicago. C'est la communauté blanche qui attire l'attention. Ils étaient beaucoup à jouer de la musique syncopée provenant de la Nouvelle-Orient, et on peut voir aussi avec le groupe Steinband from New Orleans, où le terme jazz commençait à faire fortune. Avant que le terme jazz soit utilisé dans le langage commun pour indiquer ce courant musical, le terme jazz, donc avec deux S, était le terme utilisé pour ce courant musical. Ce terme jazz semblait venir du verbe to jazm, signifiant énergie, vigueur, vitalité, et a été attesté vers les années 1860. C'est de là qu'est né le terme jazz pour désigner une musique pleine d'énergie et d'intensité. Pour en revenir, avec la direction de Nick LaRocca, qui était un cornettiste, trompettiste et chef de groupe américain, connu pour être le leader du groupe Original Dixieland Jazz Band, l'un des premiers groupes à avoir enregistré du jazz en 1917, il fut très vite invité à faire entendre son jazz à New York au restaurant Reisenweber's. Après un échec lors de l'enregistrement en Columbia, il enregistra le 26 février de la même année chez Victor le premier disque de jazz, Library Stable Blues, Dixie Jazz Band One Step. Thank you. Étant un groupe de jazz composé de musiciens blancs, jusqu'à aujourd'hui les groupes comme les orchestres blancs avaient comme réputation d'être raides, vieux jeu, avec l'utilisation de rythmiques, de la marche militaire et de la polka. En ayant, qui plus est, une pratique forcenée et caricaturale, l'Ivory Stable Blues et ses imitations animalières leur donnent raison. Mais on n'est pas tellement sûr qu'il y avait beaucoup de différence avec la musique afro-américaine. Mais aujourd'hui, on remarque que la musique dite « musique de blanc » n'est pas si mauvaise. Au contraire, on pointe les qualités rythmiques et leur virtuosité. Avec le groupe Original Dixieland Jazz Band, lorsqu'ils sortent en 1918 le morceau Tiger Rag, un jazzman naît, le batteur Antonio Spabaro. Aussi surnommé Tony Spargo, né le 27 juin 1897 à la Nouvelle-Orléans, très jeune, il est dans les groupes locaux comme Frail Brothers Band et Reunion's Band. Il est connu aujourd'hui comme l'un des batteurs de jazz ayant contribué à façonner le rôle de la batterie jazz, et non seulement comme un accompagnement rythmique, mais aussi en tant qu'instrument expressif du style. Ce nom et ses enregistrements avec l'Original Dixieland Jazz Band restent souvent cités dans l'histoire du jazz lorsqu'on parle des débuts de ce style. Mais pour en revenir, Tony Spargo est surtout connu dans ce groupe comme l'instrumentiste improvisateur. On peut voir aussi cet aspect de l'improvisation dès 1922 avec notamment le morceau Panama des New Orleans Rhythm Band, les modulations du cornettiste Paul Mares et un solo du clarinettiste Leo Ropolo paraissent très en avance sur leur temps. Jusqu'en 1923, il est difficile de comparer les orchestres afro-américains et les orchestres blancs, car avant 1920, le disque était encore un produit très coûteux et la communauté afro-américaine n'était pas une audience très intéressante pour les maisons de disques. Surtout qu'à cette époque, les seuls studios d'enregistrement ne se trouvaient qu'à New York. Ce qui fait que les seules musiques disponibles à partir des années 1910 sont new-yorkais, que ce soit orchestre noir ou blanc. Les premières compagnies ayant pris un risque de créer en dehors de New York des studios d'enregistrement étaient pour la plupart des petites entreprises. Nous avons le cas par exemple de la Star Piano Company, qui crée Gennett et ouvre dans l'usine de production de piano un studio à Richmond, dans l'Indiana. Non loin à Chicago, à Los Angeles, Sunshine enregistre la formation de Kid O'Reilly en 1922, dans le seul studio de la côte ouest créé en 1921 par le chanteur d'opéra Arne Nordskog. Dès 1923, les studios Paramount, Columbia, Victor, Hockey, Brunswick disposèrent de studios d'enregistrement à Chicago avec des équipes volantes, puis des studios permanentes. Ça va être le cas aussi pour les studios de la Nouvelle-Orléans. Des artistes vont émerger avec par exemple le cornettiste Joseph alias Joe Oliver, membre du groupe King Oliver's Creole Jazz Band, qui s'accapare du titre King dans une joute musicale avec Manuel Perez et Freddie Keppard, qui sont donc deux prétendants à la succession de Buddy Bolden. Monté à Chicago sur invitation de la part du bassiste Bill Johnson en 1918, c'est en 1921 qu'il part à San Francisco. De retour à Chicago en 1922, il ramène de la Nouvelle-Orléans son jeune disciple, Louis Armstrong, pour être son deuxième cornettiste au sein du groupe King Oliver's Creole Jazz Band. Ce groupe enregistre pour la première fois le 5 avril 1923, mêlant un jeu perfectionniste amené par King Oliver et un jeu moderne amené par Louis Armstrong qui lui permettra de populariser sa carrière. De la Nouvelle-Orléans à Chicago, de Broadway à Harlem, nous avons traversé les racines du blues, les syncopes du ragtime, la ferveur des négros spirituels et l'effervescence des cabarets. Le jazz, né de tous ces croisements, est bien plus qu'une musique. Il est l'expression d'un peuple, d'une énergie et d'une époque pleine de mutations. Derrière chaque note, il y a une histoire d'exil, de lutte, de fêtes et d'émancipation. Et si les premiers enregistrements, parfois caricaturaux, ont ouvert la voie, ce sont bien les musiciens afro-américains, comme King Oliver ou Louis Armstrong, et tant d'autres qui ont donné au jazz ses lettres de noblesse. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage au cœur des années 1910-1920, une époque où la musique est devenue synonyme de liberté et d'identité. On se retrouve très bientôt pour explorer la deuxième partie de cette grande aventure sonore. Et avant de clore, laissons encore une fois nos oreilles se balancer avec King Oliver Creole Jazz Band, Deeper Mouth Blues.